Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la santé, je discute avec Pierre-Jean Bensoussan, cofondateur et CEO de la startup Insimo. Fondée en 2013 à Strasbourg par des scientifiques issus de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, employant leurs compétences dans le milieu de la médecine et de la chirurgie, Insimo est née à l'issue d'un constat. La formation en santé nécessite des solutions innovantes qui sécurisent le patient, tout en permettant à l'étudiant de se préparer mentalement et techniquement à intervenir. Aujourd'hui, Insimo est une société employant 22 personnes et fournissant des applications de simulation médicale et chirurgicale sur modèle virtuel à comportement haute fidélité. La simulation biomécanique permet en effet de reproduire de manière réaliste et interactive le comportement des organes et les procédures chirurgicales. Les anatomies ainsi simulées servent à l'apprentissage du geste chirurgical, de la stratégie opératoire et au planning préopératoire. Au cours de notre échange, Pierre-Jean nous parle de son parcours et de la création d'Insimo, ainsi que du shift commercial récemment opéré. Il raconte comment les simulateurs d'Insimo sont co-créés avec les professionnels de santé et les étudiants. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Jean Bensoussan, cofondateur et CEO de la startup Insimo. Salut Pierre-Jean, ça va ?
Salut, très bien, ça va très bien.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors la semaine dernière, j'ai reçu Timothée Cabane d'Elsimind, qui est aussi une start-up strasbourgeoise. Donc je crois que à la fin, je vais peut-être demander à la French Tech Strasbourg de soutenir mon podcast.
Mais ça tombe bien. J'en fais partie. Je connais Timothée. Ça, je savais pas.
décidément, il y a quelque chose à Strasbourg. Le but de cette discussion aujourd'hui, tout simplement d'apprendre à te connaître, de comprendre comment le projet d'Insimo est né et toi qui tu es en tant qu'entrepreneur, comment tu veux changer la santé et surtout comment tu t'y prends et partager des anecdotes concrètes sur l'entrepreneuriat en santé. Ça te va ?
Ok, ouais, c'est parfait, nickel.
Ok, Pierre-Jean, je te laisse te présenter. Moi, généralement, je demande à mes invités de se présenter à partir de l'environnement dans lequel ils ont grandi, donc pour comprendre un petit peu comment ils sont lancés dans la santé. Donc, toi, est-ce que tu es plutôt venu du monde de la santé ou est-ce que tu es plutôt venu de l'ingénierie ou du business ou d'un autre
Alors, monde. Clairement pas du business, un peu des, enfin beaucoup du monde de la santé finalement. Par mes parents, en fait, j'ai un père médecin, une mère infirmière. Donc, j'ai plutôt baigné là-dedans, mais ça m'a pas amené du coup finalement à moi-même me lancer dans ce type de carrière. J'ai pas vraiment été encouragé dans la filière médicale. Du coup, effectivement, par contre, filière scientifique pas mal, et donc l'ingénierie. Et c'est clairement, bon, ça a dû influencer d'une façon ou d'une autre le fait que les applications médicales liées au domaine de l'ingénierie et de l'informatique, qui est celui qui m'a passionné pendant mes études, font que voilà, c'est mon métier aujourd'hui et c'est ce qu'on essaie de développer avec la société. Donc ouais, on va dire un petit mix quand même, okay. plutôt médical ingénierie, mais voilà, clairement ouais. Pas business.
Et donc pour comprendre un petit peu toi en grandissant, c'était quoi tes passions? Pourquoi la santé à un moment et pourquoi plutôt le métier technique qu'une autre branche?
Ah, mes passions c'était clairement l'informatique. Hein. Alors, pour le coup, il y a pas d'ambiguïté. C'était le secteur, ouais, voilà, vraiment, c'était tout ce qui était lié aux jeux vidéo et aux industries. Enfin voilà, parce que c'est un petit peu comme beaucoup de geeks, hein, voilà, ouais. le parcours un peu classique, des études qui t'amènent un diplôme d'ingénieur informatique. Avec sans doute la volonté initiale que j'ai poursuivi pendant un moment de travailler justement dans l'industrie du jeu vidéo, qui finalement est très proche technologiquement de ce qu'on développe aujourd'hui dans les simulateurs d'apprentissage en médecine. Ouais. Et le lien entre les deux, il est évident, c'est clairement le même métier, c'est juste pas la même application et la même finalité. Après, effectivement, moi j'ai une petite expérience dans le jeu vidéo rapidement en stage étudiant, j'ai pu voir à quoi ça ressemblait, j'ai vu un peu le background de ces sociétés là, puis ça m'a pas finalement plus convaincu que ça. Et c'est vrai que tout ce que j'ai découvert au cours de mes études en fait, C'est là que j'ai commencé à découvrir des applications concrètes dans le domaine médical, de l'ingénierie en informatique, tout simplement, ce qu'on commençait à voir en réalité virtuelle, en imagerie, et se rendre compte que finalement, tout ce qui était très en pointe dans le domaine de la recherche, de l'innovation en informatique, était très, enfin, trouver des applications très directes et très avec beaucoup de valeur dans le domaine médical. Et donc c'est un bon mix finalement pour faire des choses utiles et puis quand même continuer à s'éclater vraiment technologiquement parce qu'il se passe des choses passionnantes, ouais. En termes d'ingénierie aussi.
Et côté entrepreneuriat, est-ce que c'était un truc que tu avais en toi? Est-ce que tu avais déjà monté des petits projets? Bon, tu vois, généralement les geeks, comme tu dis, ils ont la débrouille, ils montent des PC, ils les revendent parfois, ils montent des logiciels, des sites, des trucs,
je vois bien le concept. Alors c'était moi j'ai toujours eu envie effectivement de monter ma société et j'ai suivi tous les petits cours qu'on a pu avoir. Alors voilà, on est comme ingénieur, on n'a pas énormément, mais quand même on a de la sensibilisation à l'entrepreneuriat, on monte des entreprises virtuelles, on s'amuse un petit peu de cette façon là et effectivement moi je suis plutôt jeune hein, et c'était dans le début des années 2000, on commence à avoir des outils vachement, on commençait à développer des petits jeux facilement et on sans se structurer vraiment comme une entreprise, c'est quand même des choses qu'on faisait avec mes potes en école d'ingénieur et on a commencé à produire des jeux comme ça, certains on les a vendus, il y a eu quelques projets, donc c'était quand même l'idée. Moi j'ai toujours eu envie de monter ma structure. Okay. Monter ma structure, pas forcément pour au départ pour faire un gros projet entrepreneurial très ambitieux, mais surtout pour essayer de créer un modèle d'entreprise un peu différent, pour essayer d'établir mes règles du jeu et puis faire des choses qui m'intéressent, créer mon propre emploi.
Quand tu dis que tu viens pas du tout de la fibre, enfin du domaine du business, en fait, t'as quand même déjà eu une expérience à un moment dans l'entrepreneuriat. Enfin, t'avais déjà un pied là-dedans, d'une certaine manière, avec des petits projets en parallèle.
Ouais, carrément. Non, mais bien sûr, là, c'était déjà plus vieux, quoi. Enfin, j'ai plus étudiant, déjà, okay. Avec plus de maturité, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que, du coup, de fil en aiguille, tu t'es dit que l'entrepreneuriat dans la santé et dans l'informatique, c'était pour toi?
Alors c'est un parcours assez long, enfin ça a pas été du tout immédiat. Moi j'ai quand même appris le job, enfin j'ai fait le job d'ingénieur en tant que salarié pendant pas mal d'années. Concrètement, il y a eu plein d'étapes. Il y a eu déjà des premières boîtes hors santé, donc j'ai commencé à faire des choses notamment dans le domaine de l'aéronautique. Moi je viens de Toulouse, donc assez naturellement finalement quand je suis revenu sur Toulouse, j'ai commencé à bosser dans l'aéronautique un tout petit peu dans des applications multimédia que j'ai pas trouvé, enfin voilà, ça m'a pas passionné à ce moment-là. Du coup j'ai cherché quelque chose qui avait plus de sens et je me suis retrouvé en fait dans la recherche en informatique, donc dans les en France c'est INRIA, donc c'est la recherche publique en informatique se fait dans les labos d'INRIA et en fait c'est dans l'INRIA que j'ai commencé à toucher aux applications médicales de l'informatique, dans des équipes de recherche pour qui c'était grosso modo les applications de leurs travaux de recherche, étaient liées au domaine médical et plus précisément au domaine de l'apprentissage de la chirurgie sur des anatomies virtuelles. Je me suis rendu compte, j'ai découvert à ce moment-là que c'était un champ de recherche assez dynamique, très intense dans le monde de l'informatique, avec beaucoup d'applications passionnantes. Donc pendant plusieurs années comme ça à côté d'INRIA, puis finalement j'ai quitté INRIA parce que j'étais pas titulaire d'INRIA, donc je suis parti faire l'ingénieur dans une première start-up en tant que salarié. Déjà sur Strasbourg à l'époque, où il commençait déjà à se passer des choses. Et donc j'ai travaillé comme ingénieur à développer des simulateurs médicaux dans une petite société pendant quelques années, avec pas mal de complexité technique.
Est-ce que tu as vu vraiment de grosses différences entre le monde de la recherche, de l'entreprise et après du côté start-up?
Ouais, clairement très grosse. En fait, pour moi, mon expérience, c'est que dans le monde de la recherche, en fait, on développe des choses très intéressantes, très passionnantes. On les amène jusqu'à un niveau de maturité qui permet, grosso modo, à un chercheur de faire une publication, en fait, de démontrer qu'il a apporté de la connaissance, qu'il a fait avancer une technologie. Et puis, on passe à autre chose. En fait, on améliore encore un prototype ou on crée une nouvelle. On innove dans un autre axe. Et ça, effectivement, nous, Intimo, c'est une société qui a été créée par des chercheurs. C'est-à-dire que donc voilà, il y avait effectivement, je faisais partie de la bande des fondateurs, mais il y a voilà, j'ai des associés qui sont chercheurs, enfin qui étaient chercheurs titulaires ou qui ont basculé dans la société. On avait un associé qui était aussi ingénieur de recherche comme moi, et d'autres associés qui sont restés directeurs de recherche, donc qui sont restés côté recherche, tout en étant en fait au bord de la société et conseillers scientifiques, stratégiques de la société. La grande différence quand on est arrivé dans Intimo, enfin quand on a commencé à créer Intimo, enfin la grande différence, on s'en est pas rendu compte à ce moment-là, on s'en est rendu compte au fil de l'eau en gagnant en maturité et en passant pas mal d'épreuves, c'était justement que bah, il fallait aller plus loin, au sens il fallait justement aboutir à la réalisation d'un produit, et que bah, voilà, pour finaliser un produit, pour délivrer un produit, bah, on peut pas systématiquement enfin, on n'est pas dans l'amélioration continue d'un prototype. Il faut cadrer des spécifications, faut définir à quel moment en fait ton développement est terminé, qu'est-ce qui va qualifier en fait la fin de ton projet, ton livrable. Tout ça, c'est tout un tas de trucs qui sont au départ un peu frustrants quand on est des pures techniques qui viennent de la recherche, parce que nous on a toujours l'impression qu'avec voilà des améliorations techniques supplémentaires, on va continuer à améliorer le produit.
Ouais,
mais dans les faits, souvent en fait, on le déstabilise aussi. On le rend moins stable, et puis finalement voilà, on peut ne jamais finir. Quoi. On se remet toujours à travailler, on améliore, mais on stabilise pas. Et ça, ça a été un gros changement à prendre en compte dans nos méthodes de travail pour réussir en fait à délivrer.
Ouais. Justement, parle-moi de la création. Intimo a été lancé en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux m'expliquer à partir de quel besoin et comment vous l'avez identifié, ce besoin, et bien vous avez décidé d'entreprendre?
Ouais. Alors en fait, en 2013, la société elle a été créée au terme de presque 3 ans en fait de process d'extraction finalement de la recherche publique. En fait, côté INRIA, pendant de nombreuses années, et c'est un projet qui est encore très actif, on était contributeurs, donc mes associés, moi, et puis beaucoup d'autres chercheurs et d'autres équipes de recherche, à une technologie en fait open source qui s'appelle SOFA, donc qui était une espèce de, enfin qui est toujours en fait une plateforme en fait technologique qui permet d'agréger des contributions scientifiques dans le domaine de ce qu'on appelle nous la simulation biomécanique interactive. Donc grosso modo, voilà, donc c'est un domaine de recherche très actif, très très en pointe, qui permet en gros de faire de la simulation en temps réel d'objets déformables, de corps déformables, et de pouvoir interagir avec eux, donc dans cet environnement virtuel, notamment avec du contrôle en retour de force. Et ces modèles-là, donc ils sont très génériques, au final, ça nous sert à représenter le comportement des tissus anatomiques, donc des organes, et de pouvoir faire en gros des actes médicaux, des actes chirurgicaux sur ces organes. Donc cette technologie-là, c'est un gros projet académique, et en fait, plus ça se développait, plus ça a attiré quelque part les industriels, parce que ça a un très fort potentiel. Et dans les faits, c'est un outil open source, gratuit, n'importe qui peut toujours le récupérer, s'en servir, développer ses propres produits avec. Mais comme tout bon outil académique, en fait, c'est aussi très peu documenté, enfin c'est pas du tout dans les standards en fait d'un outil industriel, et donc les gens n'y arrivaient pas, donc on avait une frustration de se dire ok, on a fait un super truc, on a tous contribué à quelque chose qui est un outil technique qui est génial, mais par contre il convertit pas dans la vraie vie, il n'y a pas de produits qui sont issus pour l'instant de ce logiciel là et on avait envie en fait d'aller plus loin, quoi, de développer ces futurs produits, ces futurs simulateurs basés sur cette technologie. On était aussi sollicité par pas mal d'industriels justement qui s'y essayaient, qui n'y arrivaient pas. Et nous, en tant que organisme de recherche, on n'avait pas la capacité, on va dire juridique, et même les process en fait, pour vraiment aller plus loin. Donc il fallait créer quelque chose de nouveau pour ramener cette technologie en gros dans de vrais produits, quoi. Donc c'était la première raison. C'était vraiment se dire on va plus loin, on sort cette techno, on sort un bout de l'équipe et puis on développe des vraies solutions.
Des solutions. Et donc ça veut dire que vous n'êtes pas parti avec une vision ou une ambition entrepreneuriale démesurée en mode on va changer le monde, c'était à partir de voilà une sorte de spin-off plutôt entrepreneurial du côté entreprise du moins d'un projet déjà existant, c'est ça?
Alors il y avait ça. Après il y avait quand même un constat. On travaillait donc dans ce domaine de la formation, de formation chirurgicale par la simulation, et on commençait quand même à avoir bien étudié le marché, donc bien étudié notamment l'état de l'art en fait des produits disponibles à ce moment-là, sur le marché pour ce type d'application. Et on était convaincu que technologiquement on pouvait aller beaucoup plus loin que ce qui était disponible. En fait, on avait déjà analysé qu'il y avait qu'il y avait un mouvement vers l'apprentissage sur simulateur. Il y avait déjà le paradigme jamais la première fois sur le patient. Enfin bref, on sentait qu'il y avait une conversion qui était en cours de l'apprentissage chirurgical pour passer du compagnonnage, décaler le plus possible le premier geste sur le patient, utiliser des modalités de simulation pour le faire. Mais par contre, on avait aussi analysé que les outils disponibles pour accompagner en gros ce changement, ils n'étaient pas encore au niveau de ce qui était attendu par les experts médicaux, par les étudiants, et que technologiquement on était convaincu qu'on avait ce qu'il fallait pour démultiplier en gros les usages, potentiellement pour aussi faire baisser les coûts, parce qu'on avait on avait aussi noté cette frustration d'accessibilité en fait des simulateurs qui sont très 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 chers et finalement peu rentable. On avait quand même un positionnement, on avait identifié un positionnement, on n'était pas uniquement dans l'opportunité on va dire de transfert.
Et quand tu parles d'identifier et de faire un état du marché, à l'époque, vous étiez combien et est-ce que vous aviez des profils différents dans cette équipe-là ?
Alors à l'époque, on était quatre. On était cinq, pardon. On était cinq cofondateurs, on va dire, issus d'INRIA, et on a été rapidement rejoints par un fonds d'amorçage justement qui était très lié à INRIA, qui était en support en fait on va dire de coaching, de suivi du projet d'entrepreneurial au sein d'INRIA, et qui était susceptible d'investir en fonds d'amorçage au lancement. Donc on était cinq avec des profils pas très différents.
Ouais,
c'est okay. Peut-être ça a été peut-être justement un petit écueil initial, c'est-à-dire qu'effectivement on était un peu tous du même sérail. Ingénieurs, chercheurs, tous extrêmement passionnés par la technologie. Du coup, avec cette vision très techno push et pas suffisamment marché. Donc ça, cette conversion-là, on l'a faite sur le temps.
Okay. Est-ce que tu peux me parler justement de l'évolution de la première étape une fois que vous avez décidé d'aller plus loin? Comment vous avez concrétisé le projet et on va dire comment vous êtes rapproché d'une version commercialisable d'un simulateur comme maintenant vous pouvez avoir.
Alors nous,
on va parler de l'offre un peu plus tard.
Ouais, alors justement, du coup, c'est tombé bien, c'est relativement dissocié finalement de notre offre aujourd'hui. En fait, on a eu une chance assez folle d'avoir une opportunité quasiment au lancement. Enfin, au lancement de la société, mais même avant en fait, nous on a été contactés en fait en tant qu'équipe de recherche par une fondation américaine. Alors ça devait être en 2010, donc quasiment 3 ans avant de créer la société. Justement, une société qui était, enfin une société, une fondation américaine qui était en recherche en fait d'une technologie pour développer un simulateur d'apprentissage à la chirurgie de la cataracte. Et ces gens-là, en fait, faisaient le tour des solutions disponibles, partout sur la planète, pour répondre en fait à un besoin qui est le besoin de cette fondation, qui est un besoin humanitaire de résolution du problème de la cécité dans le monde lié à la cataracte. Donc à partir du principe qu'il y a la moitié des aveugles dans le monde aujourd'hui, c'est des cataractes pas opérées dans des pays où il n'y a pas accès à la chirurgie. Donc cette fondation, elle a pour mission, en gros, de former des dizaines de milliers de chirurgiens dans les pays en question. Donc là, on est en train de parler effectivement des pays plutôt en voie de développement, beaucoup de l'Inde, de la Chine, pays d'Afrique, Amérique latine aussi. Et avec un outil de formation qui soit extrêmement innovant, c'est-à-dire le principe étant de former massivement sur simulateur des chirurgiens à cette chirurgie-là pour opérer ces millions de personnes aujourd'hui qui attendent une chirurgie qui dure 5 minutes, qui est finalement pas si complexe et pas si coûteuse pour retrouver tout simplement la vue. Et donc ces gens-là, on a prototypé des choses pour eux en tant qu'académiques.
HelpMeCy, hein, tu me dis si.
Ouais,
si
c'est la fondation HelpMeCy. Ouais.
Fondation. Ok.
Ouais. Et en fait, ces gens-là, ce projet-là, en fait, il s'est construit en parallèle du projet d'entreprise, avec l'ambition que ce soit potentiellement notre premier contrat pour lancer la société. Alors pas le contrat unique, on avait d'autres opportunités aussi à ce moment-là. On avait et justement la construction du projet d'entreprise ne se faisait pas uniquement autour de ça. de toute façon, rien n'est signé, il y avait quand même du risque. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait un investisseur aussi potentiellement avec nous pour nous accompagner. Mais malgré tout, on a eu cette opportunité qui s'est pour le coup convertie tout de suite et qui a lancé l'entreprise de façon très 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 très, très rapide dans une voilà dans un schéma en fait de croissance, en tout cas d'équipe, tout de suite en générant du chiffre d'affaires, mais du coup sur plusieurs années de développement custom avec le risque de s'enfermer dans du dans du mono client
et de s'éloigner du marché pour répondre à un seul besoin, du moins.
Exactement. Et ça, effectivement, alors on a identifié ce risque très vite. Après, dans les faits, pour organiser la société, pour justement, on va dire, réduire ce risque et réussir quand même à faire autre chose que le monoclient, ça nous a pris quand même, on va dire, 3-4 ans presque. Parce que ce projet-là nous a, voilà, a focalisé beaucoup d'énergie au départ, du coup l'énergie des fondateurs qui ont dû être forcément des acteurs opérationnels de la mise en, voilà, du développement de ce projet-là. Et donc ça nous a pris du temps de structurer la société pour réussir quelque part à isoler un petit peu ce projet et à pouvoir relancer d'autres axes qui soient plus les axes de la stratégie d'une entreprise, on va dire classique, qui puisse à un moment donné sortir du monoprojet, du monocliant.
Et sur les aspects régulatory et de création d'un logiciel, est-ce que tu peux nous partager des infos sur les étapes que vous avez dû franchir? Est-ce que les logiciels sont classés dispositif médical? Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à remplir en fait pour pouvoir mettre un produit sur le marché?
Alors je peux pas trop répondre à ces questions parce que en fait non, justement, et c'est aussi une des raisons de notre choix stratégique à présent de rester dans le domaine pédagogique pur, c'est que justement pour l'instant le secteur pédagogique il est pas soumis aux contraintes de régulation des dispositifs médicaux. On a failli s'en éloigner et rentrer justement dans ces problématiques de certification quand on a lancé en fait une gamme de développement de simulateurs que nous on appelle patient spécifique, donc en fait basé sur des cas cliniques réels, donc issus de scanners. Donc en gros on intègre des données scanners dans un simulateur en réalité virtuelle, enfin numérique comme on fait, et on utilise en fait cette donnée scanner pour créer un clone du patient qu'on va pouvoir simuler, donc opérer virtuellement, et sur lequel en fait nous on fait aujourd'hui un outil de planification opératoire. Donc en fait on fait un design opératoire sur une donnée patient en 3D. Et grâce à la simulation, on va pouvoir voir, visualiser les conséquences des étapes de la chirurgie planifiée et donc amener comme ça les étudiants vers la recherche de la meilleure stratégie opératoire pour un patient donné. Donc là, on est vraiment dans le domaine patient spécifique. Et cet outil-là, en fait, au départ, on voulait le faire, on l'a pensé pour le proposer aux chirurgiens directement pour l'aide à la décision. Et en définitive, on s'est rendu compte en fait du cadre très compliqué de régulation autour, et on s'est dit, on a identifié une opportunité pédagogique et on a préféré finalement s'axer au départ sur la pédagogie justement pour décaler dans le temps l'aspect régulation. Et donc on est actuellement toujours dans cette phase-là, on est en train de valider cliniquement nos simulations. Là, on lance un projet avec l'IHU de Strasbourg là-dessus, donc pour essayer de mesurer si nos modèles de simulation sont suffisamment proches de vraies déformations comportement de tissus ex vivo et même in vivo. Et ça va être une première étape pour aller progressivement vers la certification et en faire un outil d'aide à la gestion qui, là, du coup, sera un DM.
D'accord, ok. Donc là, Display est exclusivement destiné à la formation, à la planification chirurgicale.
Ouais, exactement. C'est un outil de développement du raisonnement clinique, en gros. Okay. Mais basé sur des vraies données patients.
D'accord, ok, intéressant. Et en termes de vente, du coup, donc vous avez réussi à sortir de cette dimension avec un seul client. Et est-ce que tu peux me parler de comment ça s'est passé, vous, pour justement aller chercher d'autres clients et un petit peu du marché de la formation en général, qui sont les gros acteurs et qui sont vos concurrents dans ce milieu-là?
Ouais. Alors je peux t'en parler. Alors dans les faits, on est vraiment dans cette phase de transition, c'est-à-dire que on est encore très exclusivement dépendant de ce client HMC, avec lequel le projet continue. Alors c'est une histoire un petit peu folle, hein. Clairement, c'est un projet qui a connu énormément de rebondissements, de réorganisations, de changements de partenaires industriels. Mais dans les faits, Intimo est resté là en place depuis le départ et a pris de plus en plus de place dans cette relation avec HMC. Et ce que j'ai pas dit au départ, c'est que c'est un projet justement qui a une dimension là aussi assez original, assez exceptionnel, c'est qu'il est, il est financé par du mécénat, et notamment par un milliardaire américain qui a fait sa fortune, enfin qui a hérité de la fortune de son père, qui est lui un des pionniers de la simulation aéronautique. Donc en fait, c'est des gens qui ont une vision justement héritée totalement de ce qui a été mis en place en termes de simulation dans le secteur aéronautique, et qui essaient de transposer ça au domaine médical. Alors avec vraiment une vision, mais peut-être avec un petit temps d'avance, on va dire, sur les standards techniques et aussi les modèles en fait de standardisation des procédures médicales en place aujourd'hui dans le secteur médical, qui font que effectivement c'est extrêmement intéressant, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pas forcément tout à fait ce qui est entendu aujourd'hui par le marché en termes de tout simplement de prix, de valeur et de positionnement. Donc en parallèle de ça, nous on s'est organisé pour pouvoir développer d'autres solutions, parce que aujourd'hui développer un simulateur chirurgical médical, c'est des projets de R&D qui sont très complexes. Ouais. Donc ça nécessite en général d'investir plusieurs années de recherche et développement ingénieur. Et donc c'est ce qu'on a réussi à lancer en parallèle du projet HMC, et qui nous a fait aboutir aujourd'hui à une offre qui est assez large sur pas mal d'axes qu'on développera peut-être après. Je sais pas, tu me diras. Mais effectivement aujourd'hui on a 2-3 produits qu'on propose à nos clients depuis pas si longtemps que ça, finalement depuis on va dire un an et demi, 2 ans de façon active, et avec la Covid aussi qui est arrivée au moment où on a commencé vraiment à vouloir intensifier notre développement commercial en structurant, alors, vraiment sur le tard, une petite équipe commerciale. Enfin voilà, on est en train de se convertir, de devenir, on va dire, une entreprise entre guillemets plus classique, qui n'est pas uniquement une grosse boîte de R&D, mais qui commence justement à structurer ses autres activités en parallèle, notamment l'activité commerciale.
D'accord. Quand tu parles donc du Covid, c'est que vous avez fait un simulateur en ligne, c'est ça, pour l'échographe pulmonaire.
Quand je parle de Covid, c'est que pour moi le Covid, effectivement, c'était on était en train d'intensifier justement notre activité commerciale, parce qu'on commençait à avoir une offre et des produits qu'on souhaitait qu'on commençait à commercialiser, qu'on souhaitait proposer aux universités, aux médecins. Donc moi j'étais très actif sur les salons pour donner de plus en plus de visibilité à la société, effectivement gagner un point de notoriété auprès des sociétés savantes, tout ce travail là qu'il faut faire et qui est pas simple quand on vient du domaine de l'ingénierie, parce que nous on n'a pas forcément les clés du monde médical, et je pense que tu connais bien, il est pas si simple, il est complexe, il est un petit peu féodalisé, donc ce travail là on l'avait déjà pas mal avancé. Mais effectivement, ce développement commercial, on va dire, de terrain, il a été totalement interrompu avec la Covid, parce que très clairement, nos interlocuteurs dans le domaine médical, ça fait un an qu'ils sont devenus totalement non disponibles, et qu'on va dire qu'ils ont la tête un peu autre chose, et c'est bien compréhensible. Du coup, effectivement, on a pivoté, nous, comme entreprise, en essayant de fournir une solution qui soit raccord avec, on va dire, le nouveau contexte qui est en train de se mettre en place, à la fois en termes pédagogiques, c'est-à-dire qu'on s'est lancé dans un développement très rapide d'un simulateur d'échographie pulmonaire qui puisse aider justement à l'apprentissage du diagnostic de la Covid. Mais on a aussi fait un pivot, on va dire technique, un peu plus assez ambitieux, de proposer tout ça totalement en ligne. Ça, c'est vraiment, ça rentre vraiment dans une stratégie globale de donner en fait un accès beaucoup plus simple, beaucoup plus massif aux solutions de simulation en dehors de l'université. Alors aujourd'hui, parce que le présentiel est compliqué, mais même à l'avenir, parce que effectivement, de toute façon, même en temps de présentiel possible, on va dire que le temps disponible d'un interne ou d'un externe pour aller à l'université au centre de simulation sur simulateur, et aussi le nombre de simulateurs disponibles, aujourd'hui, c'est clairement un bottleneck, on va dire, dans l'apprentissage sur simulateur. Donc on essaie de réfléchir à des solutions qui soient beaucoup plus accessibles, beaucoup plus flexibles en fait dans leur accès aussi, et qui permettent de se coupler potentiellement à des solutions sur site, parce que le but n'est pas de remplacer l'apprentissage sur site par de l'apprentissage online, mais plutôt de combiner les deux. Tout ce qu'on peut faire en ligne, finalement, autant le faire en ligne, et puis venir sur site pour rencontrer ses professeurs, pour travailler sur le gros simulateur, des choses plus avancées, plus évoluées, mais avec un socle de connaissances qui a déjà été acquise au préalable sur simulateur en ligne.
Ok. Très bien. Et donc là, ce simulateur en ligne, c'était complètement gratuit, c'est ça?
Ouais,
Ou
ça
est-ce que
l'est
vous
toujours.
l'avez... C'est toujours gratuit?
Ouais, il y a toujours un socle gratuit. C'est un simulateur qui a une entrée freemium. Et pour nous, effectivement, c'est important que le contenu lié à la Covid, qu'on a mis à disposition le plus vite possible l'année dernière, reste gratuit, reste un point d'entrée gratuit dans le logiciel. Après, effectivement, on est en train de développer une offre payante qui va venir compléter tout ça, pas forcément, et qui va aussi venir rajouter d'autres modules que les copulmonaires. On est en train d'en faire un simulateur d'échographie plus générique, toujours en ligne, toujours sans matériel, accessible à qui veut. Et on va amener justement dans les mois et les années qui viennent le contenu chirurgical dont je parlais tout à l'heure sur Display, sur la planification, sur cette même plateforme. On est en train de travailler techniquement, et c'est pas simple, à amener de la simulation, donc du coup de chirurgie interactive, totalement en ligne aussi, voilà, pour casser un peu le paradigme, voilà, du gros simulateur à 150 ou 200 000 euros, par plutôt une offre à destination des étudiants eux-mêmes. Et voilà, donc effectivement,
Donc,
d'une
quand tu
façon
dis
générale,
à
plus
destination
accessible.
des étudiants eux-mêmes, vos clients seraient pas les étudiants, j'imagine, mais plutôt les écoles, les universités.
Ouais. Pour l'instant, on laisse la porte ouverte aux étudiants à titre individuel, si ça les
D'accord.
intéresse. Et le pricing qui sera proposé, je pense, sera adapté pour ça. Par contre, effectivement, le but, c'est surtout que les universités soient prescriptrices et que les abonnements puissent être souscrits par les universités et qu'ils puissent derrière les proposer à leurs étudiants. Donc pour moi, effectivement, c'est comme un livre médical. Enfin voilà, c'est un outil de formation, comme un simulateur. Effectivement, c'est mieux si l'université peut le prescrire. C'est même aussi mieux si l'université a la possibilité, dans le simulateur, de créer ses propres contenus, de faire son suivi, de l'évaluation des étudiants. On est en train de. Enfin, je sais pas si c'est des choses que tu as vues, mais grosso modo, le monde de la simulation, j'ai l'impression qu'il est. Enfin, je sais qu'il évolue pas mal au niveau pédagogique. C'est-à-dire qu'on est en train quand même aussi de voir venir des choses qui n'existaient pas pour moi il y a quelques années, au sens où la simulation était vue et toujours vue hein, comme un outil en fait d'apprentissage plutôt par l'erreur. En fait, le but, c'est justement qu'on se met dans un environnement contrôlé, sécurisé, pour pouvoir faire des erreurs et apprendre de ses erreurs. Et donc, on est plutôt dans un apprentissage comme ça, réflexif sur le patient virtuel. Mais de plus en plus maintenant, la simulation est en train aussi enfin, l'apprentissage de la simulation est aussi en train de venir, enfin, de pouvoir être évalué, voire même d'être certifiant. Donc, on va dans cette direction-là, que les simulateurs aient aussi des contenus qui puissent être, voilà, proposés par les universités, validés et servir à évaluer les étudiants. Donc, voilà, il va falloir donner de plus en plus la main aux universités pour qu'elles puissent créer leur propre contenu, créer leurs propres exercices, parce que derrière, c'est avec ça qu'elles vont évaluer leurs étudiants.
Donc ça, justement, comment vous impliquez vos clients ou futurs clients dans le développement de vos produits? Est-ce que il y a une approche particulière? Est-ce qu'il y a une fréquence d'échange? Est-ce qu'il y a des programmes de développement? Je sais pas.
Ouais, alors nous c'est super. Nous on est très très liés avec les professionnels de santé, clairement. Alors c'est peut-être parce qu'on vient du monde académique, même si c'était l'informatique, mais globalement on est venu se créer en fait à Strasbourg. Alors on n'était pas de Strasbourg au départ, on était plutôt basé sur Lille là, en tant qu'équipe de recherche. Et sur Strasbourg en fait on est venu au moment de la création de l'IHU de Strasbourg. Parce qu'on a senti que, enfin, on savait qu'il y aurait une très bonne dynamique autour de l'IHU, autour de l'IRCAD aussi, qui est un institut de recherche ici et de formation sur les cancers d'appareil digestif, très innovant, voilà, enfin très en pointe. Bref, il y a un bon mélange ici, et c'est pour ça aussi que peut-être que tu rencontres pas mal de gens de Strasbourg en ce moment. C'est-à-dire que ici, on a accès facilement en fait à des experts, des chirurgiens qui sont passionnés par l'innovation et qui ont plein d'idées. Et donc en fait, on identifie facilement des besoins à travers des échanges souvent informels avec ces gens-là. Et donc pour nous en fait, aujourd'hui, on conçoit pas de projet sans embarquer au moins un médecin. Parce que c'est avec eux qu'on identifie les besoins et c'est avec eux derrière qu'on spécifie, enfin déjà qu'on comprend le cas clinique, hein, enfin on comprend l'acte médical, l'acte chirurgical qu'on va avoir besoin de simuler, c'est hyper important, il faut aller au bloc, il faut comprendre, voilà, faut rentrer dans votre univers, poser des questions, essayer de comprendre au mieux l'environnement médical de ce qu'on va avoir besoin de simuler. Et derrière, il faut aussi construire avec le médecin les exercices, en fait, le parcours pédagogique qui, à travers le simulateur, va permettre d'apprendre des vraies notions. Parce que le but n'est pas uniquement de simuler du mieux possible, de la façon la plus réaliste possible, un organe ou une interaction chirurgicale. Il faut aussi voilà, être capable de cibler dans le logiciel les points clés de l'apprentissage. et que ceux-là soient quelque part les plus avancés, les mieux développés, qu'on puisse développer aussi des métriques d'évaluation, de validation qui soient pertinentes, qui soient mesurables, justement, qu'il y ait plein de choses à mesurer pendant la simulation, et qu'à la fin, on amène l'utilisateur dans un parcours d'apprentissage à travers la simulation. Donc tout ça, ça nécessite bien plus que les compétences d'ingénieur informatique. Donc on a besoin des médecins, et en général, les médecins, c'est des membres à part entière de l'équipe de développement. On n'a pas de médecins salariés de la société, on travaille qu'avec des experts externes, mais ils sont impliqués quasiment de façon hebdomadaire avec nos ingénieurs.
Ok, très bien. Ouais, j'ai vu justement, donc en regardant un petit peu l'équipe, aujourd'hui votre équipe est majoritairement constituée d'ingénieurs en TIC, donc technologie d'information et communication. Est-ce que vous prévoyez un shift, d'avoir beaucoup plus de business dans le futur, ou beaucoup plus de personnes issues du monde médical? Comment tu vois l'évolution de la société là-dessus?
Ouais, alors on a déjà fait un petit shift cette année, comme tu dis, sur l'augmentation de l'équipe commerciale. Alors pour nous, c'est un gros shift, c'est-à-dire qu'on est passé de 0 à 3, de 0 si je m'exclus. Mais grosso modo, oui, c'est possible que il y a un premier changement, et ça se voit pas forcément sur notre page, sur notre site web, mais grosso modo, on avait des ingénieurs très... avec des profils très avancés, au sens des experts en simulation biomécanique, des gens qui ont formé vraiment à maîtriser le cœur de nos technologies. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin de profils plutôt applicatifs, des ingénieurs qui justement nous permettent, en train avec des médecins et en utilisant notre technologie, de créer des contenus pédagogiques, des contenus de simulation. Donc c'est plus forcément les gens qui ont des ingénieurs qui ont vraiment les mains dans le moteur de notre technologie, mais plutôt qui sont en train de construire vraiment en relation avec les médecins les exercices, les contenus. Donc c'est déjà des profils un peu différents, hein. C'est plus produit que R&D chez nous. Et effectivement, sur les aspects commerciaux, il faudra, j'espère, développer cette équipe. Potentiellement, il y a quand même, on est vraiment dans un marché de niche, dans une très petite niche. Donc aujourd'hui, il y a quand même l'appui sur des distributeurs qui fait aussi sens, parce que le marché de fait, il est mondial, et la rentabilité, à mon avis, très compliqué de l'obtenir uniquement sur le marché français. Et quand même, on reste des petites sociétés. Donc aujourd'hui, nous, aller chercher nos clients partout aux quatre coins de la planète, on va avoir du mal. L'appui sur des distributeurs fera sans doute sens. Et c'est des choses qu'on regarde en ce moment.
Et donc concrètement, vous avez, outre le partenariat avec HelpMeCy, est-ce que vous avez déjà eu des pistes ou des premiers tests à l'étranger?
Ouais. En fait, on travaille en relation, en partenariat avec des sociétés. Alors voilà, il y a peu de sociétés dans notre secteur, mais aujourd'hui, on travaille par exemple avec une société qui s'appelle Surgical Science, qui est en Suède, qui est un des trois gros de notre secteur d'activité. Donc c'est avec eux qu'on a en général des programmes de R&D communs sur des projets européens, des choses comme ça. Donc on développe des choses ensemble. On travaille ensemble d'ailleurs sur ce projet HelpMeCy, et on essaie de construire aussi nos business avec eux. Par exemple, s'appuyer par exemple sur leur force commerciale, sur leurs produits déjà implantés, pour essayer de construire justement des contenus complémentaires développés ensemble, et s'appuyer sur leur réseau de distribution à la sortie. Donc ça, c'est une option, et donc c'est des gens avec lesquels on travaille déjà, et il y en a,
ouais,
y en
donc
a d'autres.
Ce contact est venu d'où? Tu vois, si tu devais partager un peu un conseil à quelqu'un qui cherche à développer son activité à l'étranger, le contact est venu comment, et comment vous l'avez noué?
Alors là, ce contact-là, il est venu, alors là, pour le coup, c'est une histoire, je sais pas si c'est un conseil que je pourrais donner. Là, ce contact-là, il est venu du rachat, en fait, d'un partenaire historique de la société, avec lequel on avait contractualisé le contrat sur le projet HelpMeCy, et qui a été racheté il y a 2 ans par cette société. Alors, de fait, on s'est retrouvé à devoir, commencer à travailler avec plus gros que la société initiale, et du coup avec aussi plus de potentiel commercial. Donc ça a été un moment un petit peu houleux pour la société, pour Intimo, parce qu'on s'est retrouvé avec un partenaire historique avec lequel on avait beaucoup d'intérêts communs, d'une certaine manière disparaissait un peu de la carte, et à devoir tout renégocier avec un acteur différent. Mais finalement, aujourd'hui, ça nous offre aussi pas mal de nouvelles possibilités, et même si tout n'est pas encore réglé, je trouve qu'on est en train d'essayer de se positionner le plus intelligemment possible dans cette nouvelle relation pour en tirer le meilleur pour eux et pour nous. Donc c'est un parcours particulier, mais c'est aussi l'histoire vraiment du business de niche, hein, au sens où en simulation médicale, chirurgicale, ce qu'on fait, quand on a commencé, il y avait peut-être une quinzaine de sociétés sur la planète. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus parce que c'est un secteur en croissance, mais ça reste très petit. Donc finalement, on fait le tour de tous les acteurs très vite et on retombe toujours sur la même personne. Donc vaut mieux s'entendre avec tout le monde. Aujourd'hui, on est plutôt dans un secteur où il y a de la place pour tout le monde. Il y a encore des gros leviers technologiques à casser. On peut quand même encore s'appuyer les uns sur les autres, on va dire, pour créer des produits qui soient plus en attente, enfin plus dans le scope de ce qui est attendu par les utilisateurs finaux, donc dans une espèce d'amélioration un peu collaborative, en tout cas peut-être une vision un peu bisounours, mais je pense qu'elle est en partie, au moins en grande partie, vraie. Donc il n'y a pas des rapports concurrentiels très durs entre nous. On va dire que le marché est suffisamment bien réparti, les acteurs ceux qui sont en place sont plutôt rentables, donc ça se fait dans une entente relativement bonne entre tout le monde. Ça risque de devenir plus concurrentiel, au fur et à mesure que les verrous technologiques à l'entrée vont cesser d'exister parce que c'est de plus en plus facile finalement aujourd'hui de développer des simulateurs. Il y a des solutions techniques, de plus en plus accessibles pour le faire. Donc là, potentiellement derrière, la différence va se faire sur le business et ça va peut-être un peu se tendre. Mais pour l'instant, c'est encore. Pas exactement ce modèle-là.
Et donc du coup, toi, comment tu envisages les prochaines étapes ? Donc une fois que maintenant vous avez lancé ce nouveau chemin vers la commercialisation à plus grande échelle des solutions d'Insimo, quelles sont vos grandes priorités en gros ?
Nos grandes priorités, c'est globalement de réussir cet axe-là. En fait, on a vraiment besoin de se convaincre cette année qu'on a une offre produit qui soit adapté à son marché. Pour moi, on n'a pas encore trouvé le product market fit là, par exemple sur notre simulateur online. On est vraiment en train de le rechercher et j'y crois très fort. J'ai l'impression que voilà, on a le bon produit positionné comme il faut au bon moment et je fais confiance à notre jeune équipe commerciale là pour pousser ça du mieux possible et j'y crois. Mais notre but effectivement pour moi c'est je suis en poste en tant que président de la société depuis pas tout à fait 2 ans et mon objectif c'est de réussir à transitionner du mode boîte de conseil d'expertise monoclient vers un modèle économique plus hybride dans lequel il y ait de plus en plus de parts produits. Donc, pour moi, le succès, c'est ça, c'est qu'on arrive, on va pas marcher tout de suite sur, on va essayer déjà d'arriver sur 2 pattes, et de réduire notre risque sur le mode monoclient et derrière de relancer une phase de croissance à partir du moment où on aura commencé à concrétiser des ventes sérieusement sur nos produits et de rentrer quelque part du récurrent. En fait, c'est le but, d'amorcer du récurrent pour pouvoir relancer une phase de croissance. On est quasiment 25 aujourd'hui, donc on est déjà une boîte de taille importante, enfin je trouve. Mais la suite, c'est ça. Ouais.
Et en termes de financement, jusque-là, est-ce que vous avez été financé en partie via de la recherche, puis après avec des partenariats stratégiques, mais est-ce que pour aller plus loin maintenant, vous avez besoin de passer par du pré-seed, du seed, quelque chose comme ça ?
Pas nécessairement, non. En fait, aujourd'hui, on est, parce qu'on a été très, on a fait vraiment très attention, on a généré du chiffre d'affaires rapidement, donc on a été rentable très vite. On a beaucoup beaucoup réinvesti dans tous nos projets de R&D justement pour dégager ces nouveaux produits qu'on propose aujourd'hui. C'est beaucoup d'auto-investissement, d'investissement sur nos fonds propres avec de l'accompagnement aussi et des aides bien sûr, mais globalement on a sorti très peu de bénéfices. Et la suite potentiellement, ça peut se faire encore sur fonds propres. Là, on aura besoin sans doute d'aller chercher l'investissement. C'est pour attaquer des gros marchés à l'export. Si on prend cette décision, notamment sur les US. Mais là encore, c'est un peu tôt pour nous positionner là-dessus. On réfléchit aussi à la distribution, comme je disais tout à l'heure, faudra voir. Mais pour nous, les gros enjeux, c'est ça. Ouais, c'est effectivement, c'est l'investissement commercial. Après, très clairement, aujourd'hui, on n'a pas une visibilité énorme là-dessus. C'est-à-dire qu'on commence à faire des investissements conséquents dans le business, dans le marketing, dans le business développement. Aujourd'hui, je suis pas capable encore de donner nos coûts d'acquisition. Donc, il nous faudra encore un peu de temps pour arriver justement à dimensionner les efforts d'investissement nécessaires voilà, quoi, pour générer de la croissance du point de vue de notre activité commerciale.
Ok. Bon, Pierre-Jean, on arrive à la fin de nos discussions. Moi, généralement, il y a quelques questions que je pose à mes invités. Selon toi, donc là, ça fait quand même un moment depuis 2013 que tu travailles sur Insimo. Quelle a été la plus belle réussite ? Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans cette aventure que tu voudrais partager aux auditeurs ?
Ah, il y en a eu plusieurs. En termes collectifs d'entreprise, je pense que aujourd'hui, le moment le plus important, c'est le plus marquant, on va dire le plus beau livrable, c'est l'année dernière. On a livré au cours de l'été dernier une première version vraiment qui a été déployée sur le terrain pour du training sur le projet Atmissi. C'était un projet, voilà, c'est un projet tellement important pour Insimo, comme je le disais, qui a une histoire tellement complexe que voilà, arriver à finaliser une version qui est partie pour du training, qui va servir justement à répondre, à résoudre ce problème de la cécité dans le monde à travers la mission de la fondation, c'est voilà, en termes collectifs, c'est vraiment génial et c'est un aboutissement pour la société. Et donc ça, c'est un super truc. Après, d'autres moments plus on va dire plus perso, franchement moi je suis passionné par ce qu'on fait, et à chaque fois que je vois des étudiants, des médecins utiliser nos simulateurs, apprendre des trucs avec, tous ces échanges là je les trouve ça suffit, enfin je trouve ça hyper satisfaisant professionnellement, et je m'éclate avec ça, donc c'est au quotidien,
c'est ça qui te motive, voilà, au quotidien, ouais.
dès que ça revient, dès qu'on sent qu'on a fait un truc utile, que notre technologie, au-delà de nous avoir apporté le plaisir justement de la développer, la passion qu'on a derrière ça, à la sortie, c'est utile, ça permet aux médecins de se former, ça permet d'améliorer la connaissance, et in fine, il y aura un bénéfice pour le patient. Ça reste le top dans notre boulot, quoi.
Ouais. Et justement, si tu devais donc repartir à zéro et donner un conseil au Pierre-Jean qui est ingénieur et qui se lance un petit peu dans la vie active sans avoir monté d'entreprise avant, qu'est-ce que tu voudrais lui conseiller ?
Ouais, alors du coup, ça serait peut-être pas à ce moment-là, mais c'est au moment que tu décrivais, mais c'est-à-dire, je pense que sur le parcours que j'ai écrit au départ là, de création d'une entreprise issue du monde académique, donc là, pour nous, de la recherche en informatique, je pense qu'on a fait des choix initiaux, enfin en tout cas des choix qu'on n'a pas fait initialement, qu'on aurait sans doute dû faire. On a pris beaucoup de temps à sortir du labo avant de se confronter vraiment au monde du business. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'a pas fait forcément les bons choix le fait de pas forcément s'associer suffisamment vite à un profil business, justement de rester entre gens de la tech pendant très longtemps. On a fait notre apprentissage. Du coup, quelque part aujourd'hui, on connaît un petit peu le meilleur de ces deux mondes-là, mais on a pris du temps pour ça. Alors, on avait un bon projet à côté, donc on a pu prendre ce temps, mais quelque part, on a peut-être perdu du temps aussi. Et en fait, on est resté dans un mode très, en gros, la valeur de ta boîte, c'est pas la valeur de ta techno. Enfin, en tout cas, c'est pas uniquement la valeur de ta techno. Et ça, quand tu viens de la tech, tu mets du temps à le comprendre. Parce que c'est difficile à admettre qu'il y a de la valeur ailleurs, potentiellement à côté de ça, et que ça suffira pas surtout pour faire de tes produits des succès, quoi. Et ça, je pense que même si on nous l'avait dit, parce que je pense qu'on nous l'a dit, je pense qu'on l'a pas suffisamment cru, suffisamment intégré dès le départ.
Écoute, je pense que c'est des conseils très pertinents. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé ton expérience sur le podcast. Et puis, j'espère et je suis convaincu que ça va être utile à tous ceux qui nous écoutent.
D'accord, merci à toi. C'était très intéressant.
C'est pour beaucoup de réussite.
Ouais, merci.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.